L'actualité des Alpes du Sud avec plusieurs vigilances jaunes en cours.
Les deux départements des Alpes du Sud le sont pour les phénomènes pluie, inondation et avalanche. Dans les Alpes d'Haute-Provence, vigilance pour les crues. Dans les Hautes-Alpes, pareil pour la neige verglas, notamment dans le Queyras, avec des difficultés aussi sur le col du Lautaret.
Acte 1 hier des JO dans le Briançonnais.
Au programme, le village olympique prévu au fort des Trois Têtes à Briançon. C'est la Solideo qui en aura la maîtrise d'ouvrage pour construire les Jeux et laisser un héritage à la population, selon Edgar Gros-Piron, président du COJOP.
Et acte 2 des JO dans le Briançonnais sur le ferroviaire aujourd'hui.
Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, est attendu dans la cité Vauban pour évoquer le train de nuit, le sien par lequel il arrive ce matin à 20 minutes de retard.
Le statut du loup sera bien déclassé d'espèce strictement protégée à espèce protégée.
Le comité permanent de la Convention de Berne avait déjà voté dans ce sens en décembre dernier. Le Conseil de l'Union européenne a validé hier la proposition de commission pour faire changer le statut de protection du loup.
Et puis le versement mobilité régionale, une fiscalité de trop pour l'UPE des Hautes-Alpes.
En plus de dénoncer le manque de concertation sur le sujet, l'Union pour l'entreprise explique que les entreprises sont déjà mises à rude épreuve avec une hausse continue des coûts, une progression réglementaire croissante et un environnement incertain. Plusieurs vigilances jaunes sont en cours sur les départements des Alpes du Sud. Les deux territoires ont ce niveau d'alerte décidé par Météo France pour pluie, inondation et avalanche pour la journée. Dans les Hautes-Alpes, vigilance jaune pour neige verglas, notamment dans le Queyras et sur le col du Lautaret où des difficultés sont signalées par Marcel Cana. Dans les Alpes de Haute-Provence, vigilance jaune également pour le phénomène de crue. La météo n'est pas sans conséquences pour vos conditions de circulation. Côté bas alpin, d'abord, la route départementale 946 à Saint-Vincent-sur-Jabron fermé à cause d'un risque de coulée de boue. Impossible de circuler sur cet axe après le carrefour de Pied-Guichard en direction des Omergues. Une déviation s'effectue par les gorges de la Méouche. Plus de précisions sur cette dernière sur alpe1.com. Côté Haut-Alpin, la RD43 à Saint-Julien-en-Champsaur fermée en raison d'un éboulement hier. Une fermeture de la route à hauteur de la Fontaine de l'Œuf. Selon le département Haut-Alpin, elle devrait rouvrir ce matin à 10h.
L'acte 1 des JO dans le Briançonnais, c'était donc hier avec d'importantes visites.
Edgar Gros-Piron, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2030 et surtout Damien Robert, directeur général de la société de livraison des ouvrages olympiques, la Solideo, ont été accueillis par le maire de la cité Vauban, Arnaud Murgia, hier au programme. Le village olympique prévu au fort des Trois Têtes à Briançon, car c'est la Solideo qui en aura la maîtrise d'œuvre. Le calendrier est fixé très serré, Cyril Calamichard.
D'abord, on étudie, ensuite on fait, a lancé Arnaud Murgia, le maire de Briançon. Car avant même d'avoir le oui du CIO pour ces Jeux Olympiques, les études capacitaires avaient déjà été engagées sur ce fort des Trois Têtes. Pour savoir si oui, il pourrait accueillir le millier d'athlètes prévus. Si oui, on pourrait ensuite le transformer en quartier de vie avec entre 150 et 200 logements après 2030. Et si oui, on respecterait la clause patrimoniale. Et la réponse, c'est oui. Dès juin prochain, les candidatures pour transformer le Fort des Têtes en village olympique seront déposées. Avant le 15 juillet, les candidats seront sélectionnés, puis viendra jusqu'à octobre l'élaboration du projet, avant la remise d'une offre finale début 2026. Le calendrier est très serré car on vise la livraison pour la fin de l'année 2029. Allez vite pour rénover 17 bâtiments du fort et implanter des extensions contemporaines sur 3 bâtiments en suivant les plans initiaux de Vauban inachevés. En 2 ans, les travaux devront être menés pour accueillir 940 athlètes et penser à l'après à ces logements destinés aux primo-accédants. Une résidence pour les travailleurs saisonniers devrait aussi voir le jour. L'ancienne chapelle sera reconvertie en lieu destiné à l'attractivité économique. Il est également en projet un lieu muséal pour témoigner de l'histoire militaire et un nouveau théâtre intercommunal. Quant à l'usine de la Chape, des discussions sont en cours avec le propriétaire actuel. Elles vont bon train. La ville a confié la charge à la Solideo de négocier cette acquisition. Une usine qui devrait accueillir des capacités d'hébergement supplémentaires pour la famille olympique et les volontaires. Hébergement ensuite transformé en logement supplémentaire, dont au moins 25% réservé à l'accession sociale à la propriété.
Merci Cyril. Et cette idée d'héritage se développe à travers une notion, celle de passage. Les Jeux le sont, explique Edgar Gros-Piron, président du comité d'organisation des JO.
Nous, on est de passage. On est de passage, on n'est pas là longtemps. Mais on sait que ce passage-là, il va marquer et peut-être transformer... ou en tout cas écrire une petite page de l'histoire de la région dans laquelle on est venu poser nos valises. On laisse, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on fait les Jeux, On vient, on repart, mais on a laissé une trace indélébile dans l'histoire de la région, de la commune dans laquelle on est passé. C'est formidable, parce qu'on sait que le jour où on reviendra, bah les gens se souviendront et les gens auront à cœur de partager leur enthousiasme de ce qu'ils ont vécu. Les athlètes, à travers les compétitions, font d'une certaine manière, transportent un peu les gens, les font rêver et les rendent fiers.
Des propos recueillis par notre correspondant sur place, Ange Daly.
Et après l'acte 1 des JO hier, eh bien c'est aujourd'hui l'acte 2.
Sur la liaison ferroviaire, cette fois, Jean-Pierre Farandou est attendu dans la cité Vauban. Le PDG de la SNCF doit arriver ce matin par le train de nuit pour évoquer les aménagements nécessaires sur les rails à la veille des JO 2030. Son train a déjà du retard ce matin. 20 minutes, c'est moins pire que les 3h20 de la veille. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'intercité le moins ponctuel de France est arrivé à Briançon avec 3h20 de retard en raison d'une panne de matériel entre Savines-le-Lac et Embrun. Du retard, c'est ce que craint le collectif de l'étoile ferroviaire de Vennes pour le matériel promis par le ministre des Transports Philippe Tabarot. Ce dernier a promis à la mi-mars 27 locomotives et 180 voitures. Nous sommes dans l'attente de la commande suite à l'annonce du ministre et de la signature de l'appel d'offres par un constructeur comme Siemens ou Alstom, explique le collectif.
Et nos députés Alpines sont mobilisés également sur ce dossier.
Celle de la première circonscription, Marie-Josée Allemand, a présenté une proposition de résolution demandant au gouvernement de mettre en place une véritable stratégie de relance de ce mode de transport. Quant à la députée de la seconde circonscription du département, Valérie Rossi, elle déplore ne pas avoir été invitée à la visite de Jean-Pierre Farandou. Son prédécesseur, Joël Giraud, bien connu pour défendre ce dossier bec et ongle, sera par contre bien au rendez-vous. Il devrait accueillir le représentant des rails sur le quai à la gare de Briançon avec le maire Arnaud Murgia.
La commune d'Embrun qui appelle à la prudence face à la recrudescence de cambriolages.
Selon la gendarmerie, ces derniers jours, des intrusions dans des domiciles ont lieu avec des prétextes tels que des interventions techniques. Il s'agit en fait de repérage. Ces personnes en profitent également pour substituer des biens. La commune recommande de ne pas faire entrer une personne inconnue dans votre domicile en cas de doute. Vous devez joindre la gendarmerie en composant le 17. Une arnaque sur les transports en commun dinois circule actuellement sur les réseaux sociaux. Un faux profil nommé Transport en commun à Digne-les-Bains propose une carte de transport en édition limitée avec des trajets gratuits pendant 6 mois pour 2,35€. Provence-Alpes-Agglomération et la ville de Digne-les-Bains alertent les usagers. Il s'agit d'une escroquerie et recommandent de ne pas cliquer sur le lien, de ne pas communiquer une information personnelle ou bancaire. Le site officiel des transports urbains dinois reste la seule référence.
Et le statut du loup qui sera donc bien déclassé d'espèce strictement protégée à espèce protégée.
Le comité permanent de la convention de Berne avait déjà voté dans ce sens en décembre dernier. Restait la directive Habitat à faire évoluer, ces choses faites, puisque le Conseil de l'Union Européenne a validé hier la proposition de commission pour faire changer le statut de protection du loup. Concrètement, les États membres pourront mettre en place des mesures de gestion plus souples pour répondre aux enjeux de cohabitation avec les activités humaines. Par contre, ils seront obligés de conserver un statut de conservation favorable pour l'espèce, une avancée concrète et attendue pour nos territoires ruraux et de montagne, selon Renaud Muselier, le président de la région Sud.
On reste avec la région Sud, avec ce VMB, hein, le versement mobilité régionale.
On en parlait hier sur notre antenne. L'hémicycle régional s'apprête à adopter une nouvelle taxe de 0,15% de la masse salariale pour toutes les entreprises dès 11 salariés, à la clé un budget de 74 millions d'euros pour la région pour financer les investissements dans le rail. Une fiscalité de trop pour l'UPE des Hautes-Alpes. En plus de dénoncer le manque de concertation sur le sujet, l'Union pour l'entreprise explique que les entreprises sont déjà mises à rude épreuve avec une hausse continue des coûts, une pression réglementaire croissante et un environnement incertain. L'Union patronale craint une fragilisation de l'investissement, de l'emploi et de l'attractivité du territoire. En bref, les urgences de Manosque, fermées toutes les nuits jusqu'au 28 avril, incluent le SMUR et l'accueil des femmes enceintes, sont maintenues jour et nuit sur la période. Les urgences seront ouvertes au public entre 8h30 et 18h30 et régulées par le SAMU jusqu'à 20h30. Il est recommandé de faire le 15 pour bénéficier de la régulation.
Et le jardin des papillons au sein du musée promenade de Digne-les-Bains qui se réinvente.
De nouveaux aménagements ont été conduits pendant la période hivernale pour mettre un meilleur accueil en place pour le public. 20 000 euros ont été investis. Ce lieu mis en place au début des années 2000 est le premier jardin aux papillons qui a vu le jour en plein air en France. Ici, des plantations locales ont été installées pour favoriser la présence des papillons. Plus de 140 espèces de jour ont été répertoriées, souligne Jérémy Subias, directeur du Géoparc mondial UNESCO de Haute-Provence et du musée Promenade à Digne-les-Bains.
tous les ans, nous essayons de renouveler les propositions de visite, que ce soit à l'intérieur du parc arboré, qui comprend donc le jardin des papillons, mais aussi au sein de salles d'exposition qui sont situées dans la maison des remparts. Donc sur le jardin, on l'a amélioré en reprenant toute la signalétique d'interprétation qui explique justement toute cette biodiversité des papillons, les différentes espèces qu'on peut observer, mais également une signalétique d'interprétation qui présente les différents milieux naturels qui composent le jardin, des murs en pierre sèche, des zones de prairies, des zones humides, des zones avec des plantes aromatiques. La nouvelle signalétique permet à la fois de donner des contenus sur les papillons qu'on peut observer, mais également sur les milieux différents dans lesquels ils évoluent. Ensuite, on a également amélioré le parcours. On a également essayé d'améliorer les services offerts aux visiteurs au sein du jardin avec une nouvelle fontaine. Et on a aussi mis en place une grande ombrière.
20 000 visiteurs ont été accueillis l'an passé. Depuis le 1er avril dernier, la réouverture du lieu, la fréquentation a doublé par rapport à l'an passé. Pour visiter, les horaires et les modalités sont à retrouver sur alpeon.com.
Vous êtes témoin d'un événement ? Contactez la rédaction sur alpeun.com ou au 04 92 40 12 20.